mon petit bonhomme. Ouais.
Et oui, heureux de vous retrouver donc pour ce Tribune Foot où là aussi on retrouve des invités, j'allais dire en live, hein, ce matin après les best-of de des deux dernières semaines. Alors on est content d'accueillir le président du district de foot des Yvelines, Monsieur Contant. Monsieur Contant, bonjour.
Bonjour.
Bonne année.
Hein, moi aussi, bonne année, hein, bonne année à vous, bonne année à tous vos auditeurs et auditrices.
Voilà, et puis bonne année pour le foot d'une façon générale et puis pour le foot dans les Yvelines.
Une bonne santé surtout.
Oui, c'est ça. Et puis on a aussi d'autres donc représentants ce matin du foot, hein, dans la région. C'est le foot du Follep d'Eure-et-Loire, emmené par monsieur Hervé Pelletier et pas Michel, comme on l'avait écrit par erreur sur le site. Monsieur Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Alors, président du foot en Follep à 7, c'est ça?
Alors, pas tout à fait président du foot en Follep à 7, mais mon rôle, moi, je suis délégué départemental du Follep Eure-et-Loire.
D'accord.
C'est-à-dire que je suis chargé de gérer l'ensemble de l'activité sportive du Follep sur le département de l'Eure-et-Loire. Du Follep, qui est une fédération sportive multisport affinitaire de la Ligue de l'Enseignement.
D'accord.
Donc, le foot est une des 30 activités présentes sur le département de l'Eure-et-Loire.
Et vous êtes accompagné de...
De Denis Pertuis, qui lui gère la totalité de l'activité foot du département de l'Eure-et-Loire en Follep.
D'accord, Denis, bonjour.
Bonjour.
Alors, le foot, vieille passion d'enfance, fatalement?
Oui, tout à fait. Hein, on a baigné dedans.
D'accord. Pourquoi avoir choisi l'Follep?
Alors pourquoi? Bon, c'est toute une histoire. Moi, j'ai un statut d'enseignant détaché. Donc, l'Ufolep, j'ai été versé et bercé par une autre activité que le foot, qui était une activité qui, au départ, était phare sur la Loire, qui était le Solex de compétition.
Oh. Donc, Rien à voir.
Ouais. Bon, par contre, moi, je suis footeux. J'ai toujours été footeux depuis ma plus tendre enfance, puisque issu d'un milieu rural beauceron. À l'époque, il y a 30 ans, on n'avait pas tout le panel d'activités sportives que l'on a maintenant. Donc, j'ai toujours pratiqué le foot en 3F. Et ensuite, quand je suis venu détaché au niveau de l'Ufolep Eure-et-Loire, donc je me suis retrouvé à gérer l'ensemble de l'activité sportive et en particulier le foot que j'ai toujours continué de pratiquer. En Follep.
D'accord. Monsieur Contant, vous avez des fois des rapports avec l'Follep?
Alors l'Ufolep, pas tellement. Je pense que les contacts qu'on a, c'est plus avec l'UNSS.
D'accord.
Donc sur au niveau des classes horaires aménagées pour le football en particulier. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il y a un accord qui a été signé entre la Fédération française de football et l'Éducation nationale pour l'UNSS.
D'accord. Alors on va commencer à parler donc de ce qui nous attend en matière de foot en 2008 hein, dans le département des Yvelines. C'est l'époque des vœux. Quel vœu peut-on formuler pour le foot dans notre département?
Bon, que ça se continue, je dirais, comme ça se passe aujourd'hui. On est quand même au niveau des départements des Yvelines, le premier département de la Ligue de Paris Île-de-France, de la région parisienne.
Au niveau club et licencié.
Au niveau licencié. On est le 8e district de France sur 101. Bon, ce qui est quand même pas mal. On a 40 000 licenciés. On a un pouvoir de développement qui est énorme sur les Yvelines, puisque c'est un département semi-rural et qui a encore beaucoup de place pour faire des terrains de football, ce qui n'est pas le cas sur la région parisienne en particulier.
Oui.
Voilà. Donc ce qu'on peut souhaiter, je pense, c'est qu'on continue. Et puis c'est une année élective quand même, 2008, puisque mon mandat se termine fin 2008.
D'accord.
Et je me représenterai au mois de juin.
C'est bien, c'est pas la langue de bois, c'est bien.
Je me représenterai donc au mois de juin.
D'accord.
Pour 4 années supplémentaires.
Ça sera que le deuxième, troisième mandat, non?
Ça sera deux et demi, puisque j'en ai fait un demi-mandat, puisque j'ai remplacé mon ex-président Alain Maillet, qui était décédé au bout de 2 ans.
Donc je suppose que c'est une fonction passionnante.
Si je me représente, c'est que ça me passionne.
C'est ça.
Voilà.
Ouais. Bon, vous avez été pratiquant de foot, vous êtes dans le milieu. On a une autre vision des choses quand on est présent comme ça de district. On aborde des choses qui semblaient échapper quand on était sur le terrain ou direction de club.
C'est pas du tout, je dirais, la même fonction. Et puis, je crois que c'est utile d'avoir été dans un club.
Voilà,
parce qu'il faut quand même rester aussi à la disposition
à la
des
base,
clubs, à la base des clubs.
Ouais.
J'ai été 20 ans dirigeant à Nauphle-Château. après j'ai pris le district des Yvelines, j'ai fait tous les postes, je suis président maintenant depuis 5 ans. Je crois que c'est une bonne chose d'avoir été dans les clubs. J'ai essayé de reprendre d'ailleurs un club il y a 2 ou 3 ans, bon, mais ça a pas accroché. C'est-à-dire c'est pas du tout la même mentalité.
Ah bah oui. Bon, on peut pas juger parti
voilà.
Là.
C'est très dur.
En plus ça. Hein. Ouais. Le bilan de l'année 2007.
2007 a été une nette transition pour le football puisqu'il n'y avait pas de grands événements footballistiques. Après 2006, la Coupe du Monde, on a eu une augmentation de 10% des effectifs, donc à peu près 4000 licenciés en plus. Donc 2007, on va redescendre un tout petit peu, je pense en dessous de la barre des 40 000. On va perdre 2-3%. Mais bon, en 2008, on a le championnat d'Europe, etc. Et là, on va repartir. C'est cyclique.
Oui, c'est sûr.
Tous les 2 ans.
C'est toujours ces grosses années pertes, surtout une année voilà. De foot, mais même oui. Un euro.
Championnat d'Europe, championnat d'Europe, la Coupe du Monde, etc. Donc, c'est-à-dire, on a un petit peu cyclique.
Et ça, c'est toujours très bien géré, hein, cet afflux de pratiquants après chaque grande compétition. Dans les Yvelines, on arrive à bien gérer parce qu'il y a eu un moment où on est obligé de refuser du monde.
Ben, je pense qu'après la Coupe du Monde 2006, on a été obligé, bon, 10% d'augmentation, 4000 licenciés en plus, c'est quand même pour les clubs un gros travail. Il faut avoir les installations sportives, mais il faut aussi avoir les éducateurs. Etc. Bon, nous, on avait mis, enfin, quand je dis nous, c'est au niveau de la Ligue de Paris-Île-de-France, puisque le district des Yvelines, c'est la Ligue de Paris-Île-de-France. Il y avait eu un plan d'urgence qui avait été mis en place pour aller dans les petits clubs, enfin, des clubs à petite structure, je veux dire, pour les aider avec du matériel, des éducateurs diplômés, etc. Bon, plan qu'on a prolongé cette saison de manière à pouvoir les aider. Bon, c'est peut-être pas suffisant, mais c'était, je dirais, le minimum qu'on devait faire et qu'on a fait.
Ouais. Les actions fortes qui vont être plus particulièrement développées pour 2008, il y a des axes de priorité.
Je crois que non, les axes de priorité aujourd'hui, bon, tout le monde les connaît, c'est la lutte contre la violence. On fait des amalgames, on fait des comparaisons entre le rugby et le football. Bon, on va essayer de rentrer un petit peu dans le rang, je dirais, mais c'est un axe.
Il n'y a pas de gros problème,
surtout dans les Yvelines. Ouais, mais c'est, je dirais, un axe qui est perpétuel. Bon, le football féminin aussi. Le football féminin, c'est quelque chose qui a du mal à démarrer. On a du mal à démarrer pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, une petite fille, pour aller faire du football, il faut qu'elle fasse 20 km.
Ouais, c'est un problème.
Après, bon, on va attendre quand même d'être élu pour pouvoir aussi prendre des objectifs sur le plus long terme. Alors, il y en a un aussi qui me tient à cœur, c'est d'avoir un nouveau siège, puisque aujourd'hui on est à Saint-Dans-la-Bretèche, mais au niveau surface on est trop petit. Moi je souhaiterais embaucher des gens, un administratif, un technicien, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas de place pour les loger. Donc on cherche un nouveau siège sur les Yvelines. Donc s'il y a une commune qui est aimantant et qui a un petit terrain, faire un bail amphythéotique ou une chose comme ça. Bon, bah, je suis preneur.
D'accord. Mais surtout s'entraider sur une grosse ville, peut-être, non ?
Non, pas forcément. Il faut que ça soit central, surtout. Central et assez facile d'accès.
Dans les Yvelines, il y a quand même de grosses particularités. C'est d'abord le Centre technique national de foot à Clairefontaine.
Ah, bien sûr.
C'est un avantage pour un district comme le vôtre.
Oh bah, c'est un avantage.
Et puis c'est une reconnaissance, quelque part.
Énorme, puisque encore là, ce week-end, j'avais un stage de formation de dirigeants à 11 qui avait lieu sur le vendredi soir et le samedi à l'INA, à Clairefontaine, que la semaine prochaine j'ai un stage de dirigeant foot animation, que la plupart de mes stages de formation initiateur 2, animateur senior sont faits à Clairefontaine. Je dirais, je m'en sers d'une manière permanente. C'est un petit peu cher, mais bon, c'est pas grave. on a le cadre, tout.
Même pour les clubs civils. Et puis, bon, il y a un deuxième fait important, c'est qu'il y a une équipe professionnelle, quand même, qui est le Paris Saint-Germain, hein, qui démarre c'est une vitrine quand même, quelque part, même si ça va pas très bien actuellement, mais est-ce que c'est quand même...
C'est une vitrine, parce que le Paris Saint-Germain, c'est pas que l'équipe professionnelle.
Ouais, c'est ça qu'on a un peu tendance à oublier.
Je suis un fervent supporter du Paris Saint-Germain, je vais les voir de temps en temps. Aujourd'hui, j'irai pas les voir, parce que quand je vais les voir, ils perdent. Donc j'espère qu'ils vont gagner contre Lens.
Il y avait certains présents qui venaient pas au match comme ça, justement.
Par contre, il y a toute la section amateur du Paris Saint-Germain qui est au camp des loges. Bon, là, au niveau jeune, c'est pour nous, c'est un vivier incroyable. Bon, et c'est quand même l'équipe qui nous représente dans la Ligue de Paris-Île-de-France à tous les niveaux. Ils ont pratiquement 4 équipes de jeunes dans chaque catégorie au niveau de la Ligue de Paris-Île-de-France, mm-hmm. plus quelques équipes en district. Donc pour nous, c'est quelque chose. Et puis pour les enfants aussi, aller jouer au Paris Saint-Germain, c'est quand même quelque chose aussi.
Mm-hmm. Il y a des équipes phares aussi, comme Poissy, par exemple.
Il y a Paris Saint-Germain, il y a Poissy, il y a Mantes. Mantes, où on a organisé il n'y a pas si longtemps que ça un match international France-Irlande 16 ans. Mm-hmm. On a fait un Mantes 1 à Montigny-Bretonneux, c'était au mois de décembre. Donc c'est des clubs quand même qui. Des clubs phares et des clubs qui nous rendent service.
C'est important le football d'élite ou le football de masse, ou les deux vont ensemble?
Bon, je dirais que pour moi, le football de masse est important. Maintenant, ce que je regrette au niveau des Yvelines, c'est qu'on n'ait pas une représentativité suffisante au niveau du supérieur, donc au niveau de la Ligue de Paris-Île-de-France.
D'accord.
Bon, c'est dû peut-être à la structure des Yvelines, que je disais tout à l'heure, qui est un département semi-rural. On essaye de. On a ma commission technique d'intervenir pour pouvoir justement améliorer ce point-là, mais l'élite, c'est important aussi quand même.
Bien sûr. Et le foot des petits villages, parce que de plus en plus, on a des petits clubs comme ça qui créent des ententes ou qui fusionnent même.
Oui, non, mais bon, nous, on s'occupe de tout. Hein. Le foot des petits villages, en général, c'est du foot, ce qu'on appelle le foot animation. Mm-hmm. Donc, c'est des débutants, des poussins ou des benjamins qui jouent à 7 ou à 9, etc. On a beaucoup de clubs, c'est vrai.
Hein, c'est important, nous, on le voit, on a cerné.
Aujourd'hui, la partie sur les 40 000 licenciés, je dirais, il y en a plus d'un tiers, c'est ce qu'on appelle le foot animation. Donc, comme je viens de dire, débutants, poussins, benjamin. Donc, c'est 13 à 14 000 licenciés qui jouent en ces catégories-là entre 6 et 10 ans. Quoi.
Alors, un foot qui marche bien aussi, c'est le foot du dimanche matin, le CDM.
Ouais, ça, c'est un petit peu spécifique à la région parisienne. Hein. Ça existe aussi. Vous allez en province, ils ne savent même pas ce que c'est que le CDM.
Ah, bon, on aurait le voir, il n'y a pas de CDM. Parce que c'est déjà un peu la province.
Si, mais nous, tout à fait, au contraire, en Ifolet pour Aloir, je dirais, c'est tout à fait le contraire, parce que nous, tout pourrait être baptisé le CDM Ifolet, puisque nous, le grenouille, enfin l'ensemble de la pratique footballistique Ifolet pour Aloir, qui concerne un public adulte, c'est-à-dire 16 ans et plus, se déroule uniquement le dimanche matin.
D'accord.
Et bon, il y a aussi le caractère rural, comme disait notre collègue, le président du district des Yvelines, c'est que nous, le Aloir, sommes un département rural, donc les petites communes, en milieu rural, qui n'ont pas les infrastructures, qui n'ont pas les effectifs de manière à développer une pratique structurée en Fédération Française de Foot. Nous ne sommes pas concurrents du district de foot, nous sommes complémentaires, de manière à offrir autre chose dans un cadre plus souple, plus facile. Déjà, bon, du foot à 7, n'importe qui pourrait dire que c'est une équipe à 7, il y a besoin de moins d'effectifs qu'à 11, donc en milieu rural, il y a moins de normes par rapport aux installations, les investissements des communes sont tout à fait différents.
Oui, nous ne faisons pas le même produit.
Oui. Mais vous n'êtes pas dissident, quoi. Vous n'êtes pas concurrent, vous êtes complémentaire.
Non, mais je crois que nous travaillons en bonne harmonie avec le district de Réloir de Foot. Nous n'avons aucun problème. C'est en parfaite complémentarité. Il est vrai, il ne faut pas se cacher que les pratiquants qui viennent en UFOLEP sont des gens qui ne sont pas en 3F. Ça, c'est clair. La majeure partie des pratiquants sont des gens qui sont des footballeurs à simple licence UFOLEP. Quelque part, ce sont aussi des gens qu'on ne retrouvera peut-être pas toujours en 3F. Donc, je crois que notre objectif aussi, nous, qui est l'UFOLEP, c'est on est aussi sur un autre objectif au niveau de la pratique sportive que la Fédération Française de Foot ou d'autres fédérations. Nous, le sport n'est pas une fin en soi, mais une manière d'être, un épanouissement de l'individu. C'est le sport au service de l'individu. On se fait plaisir, et puis sans objectif de compétition, de montée, de descente, ou quelqu'un qui est champion de Réloir UFOLEP en foot, ça ne lui ouvrira pas une carrière professionnelle. Il faut être clair, on est sur d'autres
bases. Et puis lorsqu'on parle de ruralité, Monsieur le Président parlait de ruralité, chez nous, faut comprendre que ruralité, nous, ça veut dire des villages de 200 âmes.
Ouais.
Donc vous voyez, vous freinez un peu tard, vous l'avez traversé le village. Des fois, il n'y a pas de terrain dans ces villages.
C'est fou des villages, quoi.
Et voilà, et ça recrée aussi un tissu social. Il n'y a plus de commerce, terrasses, il n'y a plus de café, tout ça dans ces villages. Eh ben, les gens se rencontrent où ? Le dimanche matin, au terrain.
Voilà.
Les anciens rencontrent les jeunes, ils disent « Ah bah oui, toi je connais ton père, tout ça. Mmh. » Et tout ça, ça marche ensemble, la vie associative repart dans les petits villages.
Mmh. C'est pour ça qu'on parlait aussi Positiville des CDM, parce que c'est un phénomène important quand même. Hein.
Oui, je sais bien, dimanche matin. Bon, ouais, c'est le plus important le dimanche matin, c'est pas ce qu'on appelle le championnat dimanche matin, pas le même, c'est les vétérans.
Oui,
les vétérans, en-dessus de, je sais plus combien, 35 ans, je crois, un truc.
Ah, puis il paraît que c'est ça.
Et c'est un championnat qui est très bien structuré.
Mmh. Vous accompagnez d'autres types de foot, comme par exemple le futsal, les joueurs qui ballent, par exemple, le foot à deux, le futsal.
La Fédération française de football englobe, vous pouvez jouer au
Henri
football.
Henri s'en occupe beaucoup.
Vous pouvez jouer au football à partir de deux personnes, hein, le foot à deux, joueurs qui ballent, le tennis ballon.
Ouais, c'est ça, ça de plus en plus, ça plaît.
Le foot plage.
Oh, bah, dans les Yvelines,
si, mais pourquoi pas. Le foot plage, vous pouvez faire très bien du foot plage sur la base de loisirs de Verneuil ou la base de loisirs de Saint-Quentin en
Yvelines. Ah oui, tiens, c'est une bonne idée, ça.
On pourrait très bien développer le foot plage sur ces lieux-là et ça attirerait du monde à tête partout. Après, bon, vous avez tout ce que vous voulez comme sorte de football. Et on est preneur, c'est clair. Bon, dans le foot, ce qu'on appelle nous le foot diversifié, le plus important c'est le futsal aujourd'hui. Le futsal qui est très bien développé dans les Yvelines.
Oui, ça marche bien. Et puis, ça peut être une activité complémentaire, puis qui peut pallier des problèmes de calendrier des fois.
C'est une activité complémentaire, puisqu'on le fait, on pratique le futsal dans les trêves, par exemple, là, depuis le mi-décembre jusqu'à fin janvier. Il y a plein de compétitions de futsal qui sont organisées, des coupes à tous les niveaux, seniors, 15 ans, Benjamin, Poussin, etc. etc. Il y a de tout. Hein, donc là, il n'y a aucun problème. Le futsal, c'est quelque chose qui se développe d'une manière très importante.
Alors, est-ce que.
Gros problème du futsal, c'est aujourd'hui la disponibilité des gymnases.
Ouais, c'est tout. Est-ce que vous avez des problèmes d'infrastructure ? Est-ce qu'il y a des endroits dans les Yvelines où il y a de réels problèmes d'infrastructure ?
Bien sûr, il y a certains clubs qui ont des problèmes d'infrastructure. Bon, c'est peut-être pas une question de place, parce qu'en général, dans les Yvelines, il y a quand même de la place. C'est plus une question financière, une question d'aide avec des municipalités, etc., etc. Bon, je dis que le gros point, c'est les gymnases aujourd'hui. Les gymnases, je veux dire, si on veut développer le futsal, il faut qu'on trouve un des créneaux. Et manque de chance, c'est que les gymnases aujourd'hui, ils sont occupés par toutes les activités et les créneaux horaires, c'est pas tellement facile à trouver. Donc, extérieur, je dirais, bon, il y a quand même certains clubs qui sont bien occupés, ils ont tous, maintenant pratiquement tous les clubs, ils ont pratiquement deux terrains de football, voire trois terrains pour le moment. Donc là-dessus.
Ça fait rêver pour nous, hein. Ça nous fait rêver, ça. Hein.
Et puis déstabiliser en plus les terrains.
Alors, les stabiliser, c'est moi je pense que la période de stabiliser est un peu terminée. Maintenant c'est plutôt les synthétiques.
Oui c'est ça, c'est les synthétiques. Hein. Mais les stabiliser, il y en a moins maintenant.
Il y en a moins. Puis bon, synthétique aujourd'hui, c'est vous êtes tranquille.
C'est l'avenir, c'est ça.
Vous êtes tranquille pour 20 ans. Il n'y a pratiquement pas d'entretien, pas de traçage, rien du tout. Vous pouvez jouer dessus n'importe quand, sur n'importe quel temps,
même s'il neige,
même s'il neige. Non, c'est un avenir.
Non parce que
c'est un coup aussi.
Il y a eu aussi des problèmes. À un moment, je crois que c'est il y a deux ans, il y a eu un hiver un peu dur et il y a eu des matchs de reportés. On a eu même du mal à les jouer jusqu'à la fin de la saison.
Oui, en France, on est bien sorti quand même.
Oui, bien sûr.
Non, on gère bien ces trucs-là. Ouais. C'est pas un problème.
Alors, les problèmes de violence, bon, vous en parliez, il y en a très peu. Hein. Là aussi, on a bien résorbé le problème.
Je vous donner des chiffres. Hein. Il faut, je dirais, être réaliste. Aujourd'hui, on organise pratiquement, on va parler que le foot à 11, pas le foot des. Diversifié, pas le foot je dirais des petits 400 rencontres à 11 par week-end. Bon, sur les 400 rencontres à 11 par week-end, on a un gros problème. Alors, je ne parle pas des cartons jaunes, des cartons rouges. Fait partie du jeu, c'est ça. Mais je dirais, on a un dossier par week-end qui mérite des suspensions à partir de 6 mois, je dirais. Donc, un dossier sur 400 matchs, ça fait quand même du 0,25%. Très important. Puis aujourd'hui, je crois que dès qu'il y a un incident au football, bon, les médias, ils se jettent dessus. Vous aussi, d'ailleurs, le premier.
Ça dépend.
Donc, les médias, ils se jettent dessus. Par contre, quand il y a des incidents au handball, au rugby, ou des choses comme ça, bon, on n'en parle pas.
Oui, non, c'est sûr. Oui, bon, quand il y en a, faut en parler, mais enfin, faut pas non plus dramatiser la chose. Quoi. On doit en parler, mais on est.
Non, je suis dans les Yvelines. Dans les Yvelines, je suis assez content. Il y avait certains clubs qui avaient des mauvaises réputations, qui aujourd'hui sont pratiquement rentrés dans le rang. Donc, j'ai pas aujourd'hui de gros problèmes de dire tiens, à tel club, je m'en sors pas. Non, tout ça s'améliore.
Alors, le problème qu'il peut y avoir dans le foot actuellement, comme dans le sport en général, ce sont le problème de bénévolat.
Oui, mais ça, le bénévolat, c'est pas spécifique au football.
Tous les sports le rencontrent. Hein.
C'est toutes les associations. Aujourd'hui, bon, moi, je fais pas de politique. Hein. J'ai des idées, mais j'en fais pas. Donc, tant que l'État, prendra pas en compte vraiment, sérieusement,
le
statut du bénévolat, on s'en sortira pas. Bon, il y a eu des choses de fait. Il y a Mme Buffet qui avait mis en place le remboursement, enfin, la déduction des impôts et des frais kilométriques, des choses comme ça. Ça, à hauteur de 50-60%.
Ça peut être des points de retraite.
Ça pourrait être d'autres points de retraite. Ça pourrait être des choses comme ça. Bon, maintenant, il faut que l'État, je pense, prenne ça très au sérieux. Oui. Parce que le bénévolat en France, je ne sais pas, bon, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui sont bénévoles. C'est quand même eux qui encadrent les jeunes.
Nombre de clubs tourne sur un ou deux.
Et comme le disait Aimé Jacquet, le sport en France, comment ça?
Bien sûr.
Le sport, comment ça, quoi? Je veux dire, c'est...
Les bénévoles, comme nous, on a connu, enfin, comme j'ai connu, comme vous en avez connu, ça existe pratiquement plus. Les gens qui viennent, qui amènent leur voiture pour rien du tout,
et
qui sortent de l'argent de leur poche, tout ça, c'est ça. Bon, il va falloir qu'on arrive à un bénévolat ou faire au minimum rembourser, je dirais, l'essence pour faire les kilomètres.
On est beaucoup sur la société de consommation, c'est vrai. Non, nombre de parents laissent leurs enfants les activités sportives comme si c'était à la garderie, quoi. En espérant que le créneau d'activité corresponde au créneau libéré pour aller faire les courses et autres. Mais bon, c'est vrai que le bénévolat, c'est un grand sujet. Quand on évoquait justement quoi faire pour le statut du bénévole, tous les ans, je dirais à chaque fois qu'un nouveau ministère se met en place, le statut du bénévole est évoqué avec des propositions qui n'aboutissent jamais, mais je dirais malheureusement. Quoi. Mais après, ce problème du bénévole en soi, il est vrai qu'on a peut-être un noyau de bénévoles moins important qu'il y a 10, 20 ans, voire 30 ans. Mais je crois qu'il faut aussi être conscient, et notamment nous on le voit en milieu rural, que ce que je disais tout à l'heure au début du propos, c'est qu'en milieu rural, il y a 40 ans, on pratiquait, on avait quoi ? On avait deux ou trois activités proposées dans la commune. Il y avait le foot, il y avait éventuellement une autre association, et maintenant c'est vrai qu'il y a, pléthore d'activités. Je vois moi sur ma commune rurale, il y avait trois associations sportives quand j'étais jeune, maintenant il y a possibilité à 30-35 activités sportives. C'est vrai que le noyau de bénévoles est resté le même, mais qui se partage aussi sur l'ensemble avec aussi un public des jeunes, des enfants. Souvent les parents suivaient leurs enfants. Maintenant les enfants, c'est aussi une chance pour eux, on peut de goûter à tout un tas d'activités sportives dans leur jeune âge. Mais en même temps, les parents suivent l'activité de leurs enfants. Donc il y a un zapping aussi du bénévolat qui se fait de la même manière. Et c'est vrai que c'est un fait de société aussi.
Monsieur Contant, vous travaillez aussi avec les autres districts d'Île-de-France. C'est-à-dire, vous avez des actions communes?
Disons que en tant que président de district, je fais partie du comité directeur de la ville de Paris-Île-de-France comme tous mes autres collègues.
Bien sûr.
Donc on se voit régulièrement.
Mais est-ce qu'il y a des activités communes ensemble?
Il n'y a pas de grosses activités communes, mais chacun regarde ce que fait l'autre et chacun prend ce qui l'intéresse dans ce qu'il fait l'autre. Je crois que c'est une bonne chose, au contraire.
Bien sûr.
Ouais, et puis je rencontre aussi tous les présidents de district de France, hein, puisque on est l'association nationale des présidents de district de France. La NPDF, sur laquelle on se rencontre, je dirais, deux fois par an, tous. Je connais très bien Jules, d'ailleurs, de l'Eure-et-Loire. Je ne me rappelle plus son nom de famille.
De Ron.
Donc, j'ai dit bonjour, d'ailleurs, s'il écoute les radios, je ne sais pas s'il écoute. Je connais les présidents de district de toute la France, et en plus, on a des réunions de secteur. Donc, la France est divisée par secteur, et on a 3-4 réunions de secteur dans l'année, donc on échange justement nos idées, et où on dit ce qu'on souhaiterait voir évoluer, et qu'on remonte, bien sûr, vers la Ligue Ligue fédérale amateur en particulier.
Mais tout le monde roule dans le même sens. Il n'y a pas des districts qui essayent peut-être de tirer un peu plus la couverture à eux. Quoi,
ou... La NPDF, il y a 101 districts en France. La NPDF doit regrouper 100 districts. Hein. Il y en a un qui. C'est donc. Mm-hmm. Non, il n'y a aucun problème.
Très bien. Allez, un petit break musical et puis ensuite, on poursuit cette conversation autour du ballon rond. Oui, le temps passe très vite, 10h30, vous êtes dans Tribune Foot, on a parlé de boxe française et de chaîne traîneau dans Tribune Sport, et maintenant on parle de ballon rond, et rien que de ballon rond, donc dans cette deuxième partie de sport de la matinée. Alors monsieur Pelletier, vous avez une particularité, c'est qu'il y a du foot sans arbitre, ça peut exister ?
Ah oui, tout à fait, ça peut exister.
Et est-ce que c'est du foot ?
Parce que l'essence
du foot, c'est aussi d'avoir un arbitre quelque part. Que...
Oui, mais c'est une autre philosophie du foot que l'on développe en une fois la perleur. D'ailleurs, ce qu'il est bon de signaler aussi aux auditeurs des Yvelines, c'est que le foot, si au niveau de l'UFO la perleur, c'est le secteur d'activité le plus important, avec 104 équipes, en gros un panel de 1400-1500 pratiquants foot en UFO la perleur, c'est très 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 important. La particularité de l'UFOLEP aussi, c'est que chaque département a capacité à développer des activités pour répondre aux besoins de la base. C'est-à-dire que dans les Yvelines, nous sommes pourtant un département limitrophe, dans les Yvelines, en UFOLEP-Yvelines, il n'y a aucune pratique foot, notamment foot à 7. Tel qu'il est développé chez nous.
Ouais. Je ne connaissais pas.
Ça, c'est une des particularités du FOLEP, même nous, dans la région centre, et même à l'échelle nationale du FOLEP, le foot à 7 tel qu'on le développe en Eure-et-Loire, c'est quelque chose de très, très particulier. Mmh. Alors, le pourquoi, donc l'histoire, ça remonte à il y a 25-30 ans, où un enseignant qui a été nommé en Eure-et-Loire, qui pratiquait le foot en Dordogne, s'est dit, entre copains, entre profs, on a envie de continuer à pratiquer du foot, vers du foot plaisir, qui est venu trouver mon prédécesseur délégué UFOLEP, qui a dit, on aimerait bien monter du foot en UFOLEP, en Eure-et-Loire, foot loisir, foot plaisir, à se retrouver. Et c'est comme ça que le concept du foot à 7 a été développé en Eure-et-Loire. Et puis ensuite, petit à petit, donc Denis qui a démarré aussi un peu plus tard dans la pratique sous l'égide du foot UFOLEP et qui depuis a pris la responsabilité de l'ensemble de la commission foot et de la gestion de l'activité. Donc on s'est trouvé devant le phénomène d'augmentation aussi du nombre d'équipes parce que
10% tous les ans.
On est, Sans faire, je dirais, de promotion, de démarchage, quoi que ce soit. Les gens viennent nous retrouver parce que dans l'esprit qu'on veut développer, de la pratique plaisir du foot, sans trop de contraintes, il n'y a pas de montée, pas de descente. Donc c'est aussi un autre esprit de l'activité.
C'est un autre foot avec des règles un peu différentes quand même.
Tout à fait.
Si le ballon, faut le mettre au fond.
Oui, tout à fait.
C'est le même principe.
Ouais. Quand vous parliez tout à l'heure, est-ce que c'est encore du foot? À partir du moment où la finalité, c'est de jouer au pied avec un ballon. Et l'objectif, c'est de mettre le ballon dans un but. On est bien encore, c'est la pratique foot. Mais c'est vrai que l'esprit, déjà, du foot à 7 et du foot à 11, c'était pas tout à fait le même. Parce que foot à 7, on touche quand même beaucoup plus le ballon.
Il n'y a pas d'hors-jeu.
Si, y a d'hors-jeu. On a gardé l'hors-jeu. Oui, Denis peut vous dire.
Et vous jouez pas avec les touches Il n'y a pas de touche au foot à 7.
Ah si, on joue ou sur petit terrain, sur terrain
de demi-terrain,
ou sur demi-terrain.
C'est pas comme le foot en salle à 7 qu'il y a vu il y a très longtemps où effectivement on pouvait jouer avec les touches, il n'y avait pas de hors-jeu, enfin bon.
Non, tout à fait. Mais par contre, nous le hors-jeu, dans l'esprit, le hors-jeu a été gardé.
Ouais.
Donc Denis peut vous dire pourquoi, c'est vrai.
Si on joue sans arbitre, c'est pour ne pas contester, quoi, c'est ça.
Alors, toutes nos règles, donc on est parti de cette base il y a une quinzaine d'années à supprimer l'arbitre, pour le supprimer. Physiquement, bien sûr, mais ayant des petites structures, on a des problèmes de dirigeants partout, nous n'avions pas, dans chaque petit club, un arbitre. Il faut avoir la stature pour faire cette fonction, il faut être formé, c'est pas dit à tout le monde. Donc, c'est parti comme ça, de dire... Eh ben, on va jouer sans arbitre. Donc, on était un petit peu anonyme, il y avait qu'une trentaine d'équipes dans les années 90, et c'est parti comme ça, et simplement, bouche à oreille, 10% tous les ans. On est à plus de 100 équipes, donc c'est énorme pour un tout petit département qui était beaucoup de petits villages. Et ensuite, par rapport au fait qu'on jouait sans arbitre, on a adapté nos règles, on a adapté nos règlements, on a adapté nos championnats. C'est-à-dire que déjà, on a dit, on supprime les tacles. Pourquoi ?
D'accord.
Parce que sinon, ça va faire des discussions. S'il passe un quart d'heure à discuter si le tacle était bon, si le tacle n'était pas bon, donc on a dit, on ne tacle pas, on joue debout. Donc ça, c'est très apprécié. Les gens savent qu'ils vont venir chez nous, ils ne vont pas être blessés, ils vont repartir, ils vont pouvoir aller au boulot le lendemain, il n'y aura pas de souci.
Tout le monde reste dans la lignée, il n'y a pas des fois, de temps en temps, quelqu'un qui fait un tacle
inconsidéré. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver.
On a mis en place aussi un certain nombre de règles éducatives, parce que l'activité sportive qu'on va développer en Ufolab, c'est aussi un sport citoyen où chacun est responsable de son activité.
C'est ça, ouais.
Donc déjà, le fait de, que ce soit de l'auto-arbitrage fait que chaque joueur, chaque responsable d'équipe est vraiment responsable. Que, et puis là, je crois qu'au niveau du district des Yvelines, puis dans quelque activité sportive que ce soit, je dirais, l'arbitre qui est là, maître des règles du jeu, donc qui maintient les règles du jeu, donc absolument, donc il y en a besoin. Mais le fait qu'il y ait un arbitre aussi conduit certaines fois des joueurs, ben, au lieu de, comment dire, de régler des conflits ou de modérer, parce que quand on est face à un joueur, donc c'est un joueur face à un joueur, donc on règle ça ensemble. L'arbitre est souvent celui sur qui on rejette tout un tas de choses et qui est chargé de régler l'affaire avec l'autre joueur, l'intermédiaire. Donc, qu'il n'y ait plus d'arbitre fait que tout se passe relativement à merveille. D'ailleurs, on s'est trouvé confronté au départ à une règle qui est la règle de l'avantage. C'est-à-dire, attention, si jamais... On a supprimé la règle de l'avantage, parce que l'avantage, c'est toujours celui à qui profite, qui va le garder. Et donc maintenant, c'est quelqu'un fait une faute, on s'arrête.
Voilà.
Point.
On fait une faute, on s'arrête.
Et on part à jouer.
Ouais. Chaque joueur est responsable de ses actes.
D'accord. Mais leur jeu, alors, ça prête pas à contestation, parce qu'on sait que c'est toujours un des points les plus sensibles dans le foot qui prête contestation. Alors, sans arbitre, là, comment ça se passe?
Non, mais ça peut toujours prêter à contestation. Mais...
Oui, parce que
aussi que l'enjeu, nous, au niveau des rencontres, est différent. Je veux dire, on n'a pas de montée-descente.
Oui.
Donc, il n'y a pas l'enjeu de se dire on va être rétrogradé, on va monter ou quoi que ce soit. C'est-à-dire les gens le prennent plus sur le côté foot plaisir.
En auto-arbitrage, il faut que ce soit les gens qui soient sur le terrain qui arbitrent. Vous voyez, on n'a pas d'arbitre central. On ne va pas avoir en plus des arbitres de touche.
Oui,
on ne les a pas. Donc c'est aux gens qui sont sur le terrain de juger.
Ils sont tous d'accord?
Eh ben, en commission, ce qu'on leur dit, c'est regardez votre chaîne, vous regardez un match. Avec les nouvelles technologies, même après deux ou trois ralentis, on n'est pas sûr qu'il y ait un hors-jeu.
Il peut y avoir des fois, on les voit sur la ligne.
Voilà, alors c'est de 5 cm et ça fait rigoler les commentateurs. Comment voulez-vous que dans le feu de l'action, un défenseur puisse dire hop, t'es hors-jeu, toi? Non. Donc, on a nos règles que l'on met en place, et après, donc c'est un cadre, et après les gens évoluent dans ce cadre, notamment pour le tacle, notamment pour on avait dit on supprimait le penalty aussi, parce que c'était pareil, il y avait des discussions, et du fond de la salle en commission il y en a un qui a levé la main et dit mais alors attends, vous supprimez les penalties, et s'il y en a un qui arrête le ballon de la main, comment on fait? Et de l'autre côté de la salle, il y en a un qui a levé la main et qui a dit, tu sais, moi, s'il y a un de mes joueurs qui arrête le ballon de la main, eh ben, je te compterai le but. Voilà. Et ça s'est réglé comme ça. Et ça, c'est nos coutumes, vous voyez. Nos coutumes, elles sont comme ça. Autre coutume qui est classique chez nous, si les effectifs sont justes, une équipe arrive à 7, un joueur a un petit pépin physique, automatiquement, il y en a un en face qui va sortir, qui va dire, vous êtes plus que 6, moi, je sors, on continue à jouer à 6. Ou alors, on prête un joueur. Oui, c'est tout l'esprit
du foot. Quoi.
Ouais, c'est tout un esprit.
Le jeu, simplement le jeu, et ça marche très bien.
Alors, pour en revenir sur le hors-jeu, simplement le fait d'avoir maintenu le hors-jeu, ce n'est pas pour sanctionner ou d'être toujours à regarder, à suivre par rapport à la ligne de hors-jeu. C'était tout simplement parce qu'on voulait que que la pratique du foot, le côté collectif, soit toujours présent, de manière à éviter.
Si un joueur stationne devant le gardien.
Comme ça existe lors des tournois de sixte, les fameux tournois de sixte, où il y a un joueur qui va être sur le gardien, sans cesse, à être là devant, à gêner le gardien.
Nous, tout à fait.
Donc on voulait qu'au moins la zone, qui est la zone de hors-jeu, ce soit une zone où on puisse jouer tranquillement, que le gardien puisse jouer et s'exprimer aussi. Et non pas toujours avoir quelqu'un sur lui.
Mais alors, donc les matchs ont lieu en plein air, pas en salle?
Ah, ce sont des matchs en plein air.
D'accord, ok. C'est pas du foot à 7 en salle comme c'était.
C'est du foot extérieur.
45 minutes aussi, par mi-temps, non?
Non, 2x30.
2x35. 2x35 minutes.
D'accord.
Et en foot à 7, il est vrai que quand on parle aux pratiquants à 11, on a dit du foot à 7, bon, alors, c'est un plus petit terrain, c'est plus facile. Sauf que le foot
alors,
à 7,
il n'y a
pas beaucoup de temps de récupération.
Comment sont les postes? Il y a combien? Un gardien, deux arrières?
Un gardien, généralement, il y a trois arrières.
Trois arrières?
Mais vous savez, c'est très libre. Hein.
Ouais,
c'est, tout le monde attaque, tout le monde défend.
Bah, oui, ça c'est sûr.
Et c'est, comme le dit Hervé, c'est très physique. Hein. Il faut monter, descendre. C'est très, très physique.
Ah, dès qu'on a perdu le ballon, ça revient vite. Donc, c'est vrai que c'était.
Au niveau des districts, d'ailleurs, nous aussi, on organise, bien sûr, on a le football à 5, football à 7, football à 9. Hein. Football à 5, c'est pour les débutants. Football à 7, c'est pour les poussins. Football à 9 pour les benjamins, déjà un petit peu plus vieux. Donc, c'est pareil, ça se joue sur un demi-terrain. On a à peu près dans les Yvelines, je dirais, 4000 licenciés par catégorie, ce qui est quand même important. Mm-hmm. Vous savez qu'on organise 300 matchs à 7, 300 matchs à 9, 300 matchs à 3, en poussant, en débutant, c'est plus des matchs, c'est des plateaux, plutôt genre plateaux. Mm-hmm. Donc, au niveau arbitrage, il y a un arbitre, mais c'est toujours un arbitre jeune. C'est-à-dire, c'est un 13 ans qui vient d'arbitrer.
Oui, le côté éducatif
ans,
aussi.
Donc, qui a suivi une formation d'une demi-journée, juste pour connaître les règles principales, etc. Bon, comme l'UFOLEP, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est pratiquement inexistante dans les Yvelines, tout revient sur, au niveau du district.
C'est un peu le même football auquel vous adhérez.
C'est un trip de football qui est préconisé par la Fédération Française de Football. On commence le football à 6 ans. À 6 ans, on joue en débutant à 5, après on passe en poussin à 7, après on passe en benjamin à 9. Il n'y a plus de football. Dans le temps, les benjamins, ils jouaient au football à 11. Mettre 11 gamins sur un terrain de football, comme vous voyez, bon, ils ne touchaient pas souvent le ballon. Bon, l'avantage de jouer sur un demi-terrain, déjà, c'est qu'ils touchent beaucoup plus la balle.
Chez nous, le football est mixte.
Oui,
nous acceptons les féminines.
D'accord.
Nous en avons dans des les équipes sont mixtes comme ça se pratique chez vous dans les petites catégories.
Jusqu'en 13 ans, on peut jouer en mixité.
Oui, mais après, vous l'avez bien dit, les féminines, c'est beaucoup plus difficile. Alors que chez nous, elles peuvent intégrer les équipes masculines, il n'y a aucun souci.
D'accord, et ce, quel que soit l'âge, quoi.
Quel que soit l'âge.
D'accord. Mmh. Alors, il y a le prix d'une licence particulière à prendre en UFOLEP, ça se passe comment
Nous, la licence UFOLEP, je dirais comme dans n'importe quelle fédération sportive, une association s'affilie au comité départemental UFOLEP, et ensuite, il y a prise de licence pour les joueurs. Ce qui veut dire que, si on en revient à l'Eure-et-Loir, parce que chaque département aussi a capacité à moduler ses tarifs, nous, l'affiliation d'une association au comité départemental UFOLEP, c'est de 124 euros pour l'année, qui comprend l'ensemble des pratiques sportives de l'association. C'est-à-dire qu'une association qui développerait 4 ou 5 pratiques sportives, la seule affiliation permet de pratiquer ces activités sportives. Et ensuite, les pratiquants prennent une licence sportive. La licence foot est à 26,80 €. C'est-à-dire pour moins de 30 euros. Après, chaque association peut mettre la part association en fonction des prestations fournies. Mm-hmm. Ce qui veut dire que nous, pour 30 euros, on n'a pas de droit d'engagement particulier au championnat.
Donc il y a des championnats, mais sans monter, sans descendre. Il y a quand même un titre à la fin qui est attribué.
Un championnat, parce que même s'il n'y a pas l'objectif de compétition absolue, il y a quand même l'envie de gagner. Pour qu'il y ait rencontre, il faut quelque part qu'il y ait aussi envie de...
Vous avez parlé des prix de la licence, donc Hervé vous a dit que le prix chez nous est relativement modique, ce qui permet à des jeunes chez nous qui ne veulent plus aller en fédération de pouvoir, pour un très petit budget, même sans terrain, on a des joueurs chez nous qui jouent sans terrain, parce qu'on leur organise, leur match à l'extérieur. Donc on a des jeunes qui sont très très bien et qui tournent toute l'année, qui jouent entre eux pour un tout petit budget, mais sans terrain. Ils n'ont pas d'infrastructure. Eh bien c'est pas grave, chez nous ils peuvent jouer quand même.
D'accord. Le district de Loire, il accompagne votre action. Comment réagit-il?
Alors là, on a des actions complètement indépendantes et séparées du district de Loire. On vit, on fonctionne depuis plusieurs années en bonne intelligence avec le district de Loire, dans le sens où il y avait eu un accord tacite, c'est de se dire que le district de Loire gère et l'UFOLEP ne va pas mettre en œuvre des activités pour les jeunes, puisque les éducateurs sont en majorité au district de Loire de foot, donc l'UFOLEP ne fait rien pour les jeunes. Par contre, tout le côté foot loisir adulte, c'est l'UFOLEP qui le gère.
D'accord.
Je crois qu'on vit sans problème. D'ailleurs, le club d'appartenance du président du district de Loire est un club qui a aussi une équipe en UFOLEP.
D'accord.
Donc, je crois tout se passe en bonne intelligence.
Okay. Bien sûr. Monsieur Contant, un petit mot sur les arbitres. Il y a la formation sur les arbitres. Maintenant, il faut, je crois, à un certain niveau, quelqu'un qui est capable d'arbitrer par club, c'est ça, hein?
Oui, en fonction du niveau où évolue l'équipe senior Fagnon, je dirais.
Ouais. Ça, c'est une contrainte.
Vous savez, ils doivent nous fournir un certain nombre d'arbitres. C'est une contrainte, oui. Moi, si on veut des arbitres, il faut bien y arriver. Un club, je dirais, moyen, qui a une dizaine d'équipes, il va utiliser quand même 4 ou 5 arbitres tous les dimanches. Donc, si on ne l'oblige pas à nous en fournir, enfin, que nous, on lui en fournisse 4 ou 5. Donc, suivant le niveau où il joue, s'il joue en division d'excellence, qui est le plus haut niveau, du district des Yvelines, ou de tous les districts, d'ailleurs, ils ont une obligation de 4 arbitres pour la région parisienne. Mmh. Ce qui n'est pas vrai en province, puisqu'en province, la plupart, c'est 2 arbitres.
D'accord.
Ils ont plus de facilité que nous pour trouver les arbitres. Donc, nous, c'est 4 arbitres, et puis après, première division, deuxième division, c'est 2 arbitres, et en dessous, c'est 1 arbitre.
Donc, ça a eu un effet bénéfique, quand même, sur l'arbitrage. Il y a eu des nouvelles vocations qui se sont révélées.
Il y a eu des nouvelles vocations qui se sont révélées dans les 3-4 dernières années. On a eu une augmentation des effectifs. Bon, maintenant, on travaille plus sur la quantité, on travaille plus sur la qualité. Mmh. Là, je pense que vous aurez l'occasion d'avoir, bon président de la commission départementale d'arbitrage, sûrement un dimanche matin.
Et donc, effectivement, ça sensibilise aussi les clubs, fatalement.
Bien sûr. Non, mais c'est, ça les oblige à envoyer des gens en formation, c'est clair.
Et donc, on voit les choses un peu différemment, des fois.
Voilà. Hein? Voilà, puis bon, il y a des joueurs qui ont pas beaucoup d'avenir, je dirais, dans le football, qui peuvent se diriger sur l'arbitrage aussi. C'est une voie qui permet de rester quand même dans le football.
Bien sûr.
Mmh. Il est vrai que quand vous parliez d'arbitre, voir la chose différemment quand on est arbitre, c'est que nous, les joueurs qui viennent chez nous, qui viennent nous retrouver, voient les choses différemment aussi, de se dire que quand on est joueur, qu'il y a un arbitre, on va aller aux limites des possibilités qui sont offertes en étant dans le respect des règles. C'est l'arbitre qui est là pour dire stop, terminé, vous dépassez les règles. Tandis que là, le fait qu'il n'y ait plus l'arbitre, les joueurs se dégèrent et doivent sentir à quel moment ils sont dans les règles, à quel moment ils vont dépasser la ligne jaune. Donc c'est vrai que tout ce côté citoyen responsable est un élément fort aussi.
Je vois que on n'a pas convaincu tout à fait. Moi, je vous invite à venir jouer. Venez.
Ah, moi, j'ai rien. Moi, je.
Venez avec nous et vous verrez que ça se passe très très bien. Et qu'une fois qu'on a pris le pli, même un retour en arrière paraît complètement. C'est plus possible, quoi. Vous proposez des arbitres à nos ufolépiens, ils n'en veulent pas. Non, on se débrouille.
Venir voir. Donc ça veut dire qu'il ne serait pas capable de revenir dans un club.
Tout à fait.
Affilié puisqu'il à la FFF, il y aurait des réactions qui surprendraient.
Mais l'esprit est différent parce qu'on prend une certaine habitude de jouer. Denis le disait, c'est jouer debout. C'est le respect de l'adversaire, effectivement pas de contestation. Il n'y a pas à attendre si on fait une faute que l'arbitre siffle pour dire là il y a faute, il faut arrêter. Tandis que là, on fait une faute, on s'arrête. C'est vrai qu'on se retrouve à jouer contre des joueurs qui pratiquent avec l'arbitrage. De toute façon, même s'il y a faute, actuellement, si l'arbitre n'a pas sifflé, il
n'y
a pas faute, on continue. Tandis que là,
Des fois, on passe pour des martiens, quand on fait des. Mais pourquoi?
C'est parce qu'on voit à la télévision.
Tout à fait.
La télévision, même s'il y a une faute ou la balle est sortie, elle va dire c'est pas moi,
la
c'est.
La simulation.
Justement, monsieur Contant.
Ça nous fait beaucoup de tort.
Oui. Justement, monsieur Contant, il y a aussi, et je parlerai, et je poserai la question à Jean-Louis Leplat la semaine prochaine, mais il y a aussi, je dirais, un rôle de l'éducateur. Parce que trop souvent, on a des entraîneurs ou des éducateurs qui systématiquement disent qu'ils ont perdu un match à cause de l'arbitre, quoi. Alors. C'est pas toujours vrai, c'est pas souvent vrai.
Oui, attendez, ça dépend à quel niveau on se place. Je pense qu'au niveau des districts, je pense que.
Oh, il y a des clubs.
Aujourd'hui, il y a des formations qui sont faites. Les clubs ont des éducateurs qui ont reçu une formation et qui savent se tenir sur le. Plus, on met en place, nous, des séminaires arbitres éducateurs pour qu'ils se connaissent, etc. Je pense que le banc de touche est très important, bien sûr. C'est suivant la réaction du banc de touche, les joueurs, ils vont suivre ou vont pas suivre. Si le banc de touche, il calme le jeu. Il n'y a aucun problème, le match se terminera, ça passera bien. Bon, si l'entraîneur ou même le dirigeant qui est sur le banc de touche, il commence à faire monter de la mayonnaise, ça se passera mal.
Et chez nous, justement, les gens qui sont en dehors du terrain, sur le côté des terrains, ils doivent se taire. Pourquoi? Parce que s'ils vont donner un avis sur ce qui se passe sur le terrain, c'est plus de l'auto-arbitrage, c'est de l'arbitrage. Donc, ça c'est un principe fondamental. Les gens qui sont sur la touche en dehors du terrain, ils doivent se taire. Mmh. Voilà, ils ne doivent pas donner d'avis, ils se taisent. L'auto-arbitrage, c'est ceux qui sont sur le terrain, pas ceux qui sont sur le côté.
Mmh. Alors ceux qui sont dans les tribunes, ceux qui viennent, vous avez des spectateurs, vous avez des gens qui viennent finalement voir le match, quel est justement leur comportement? Quand ils voient qu'il y a une chose qui leur plaît pas, que sur le terrain on dit rien, quel est leur sentiment?
Bon, je dirais, la main courante, c'est relativement confidentiel. On n'abandonne pas des milliers de spectateurs. Mais c'est vrai que les gens qui sont sur le côté, des fois, peuvent être surpris par des décisions prises. Mais ils acceptent, ils disent oui. Et puis après, on explique le pourquoi des choses.
Hein, et puis dans chaque club, on a des très très bons dirigeants. Hein. Chaque c'est très bien géré, relayer notre message. Et tout de suite, ils vont expliquer. Mmh. Ce pourquoi on est là. De toute manière, dans les petits villages, on sait très bien qu'on ne va pas gagner la Coupe du Monde. On est là pour se retrouver entre copains et pratiquer notre activité.
Ce qui est important, ce qu'on disait au début, c'est que les gens qui viennent pratiquer en Ufollup, en Eure-et-Loir, viennent sur le monde intérieur, parce qu'ils ont envie de venir, ils savent quel type de foot on développe, ce côté fair play du foot, ce côté sans enjeu, et donc ils ne sont pas surpris. Hein, pour eux, ils viennent rencontrer autre chose, une autre activité du foot, ou le plaisir de retrouver les autres, de partager des valeurs sportives, les valeurs éducatives, les valeurs citoyennes du foot, le plaisir de rencontrer les autres. Hein, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Donc, si ce sont des gens qui n'ont pas compris nos règles, en gros, ils n'ont rien à faire en Ufollup. Et puis, ils n'y viennent pas non plus. Puis, rapidement, ils ont compris qu'ils n'ont rien à faire ici, dans l'esprit du jeu. Quoi. Mm-hmm. En général, il y a très peu de retour en arrière, parce que la démarche de venir, c'est une démarche volontaire.
Monsieur Contant, le prix dans les clubs, on y fait attention au prix des cotisations, parce qu'il y a malheureusement des familles qui, des fois... c'est chaque club qui fait ce qu'il veut, d'accord.
Mais le prix des cotisations, je les connais pas, ça peut varier, je pense, de 70 euros, peut-être à 150 euros,
quand même.
Entre 70 et 150 euros sur les clubs. Mais ça dépend aussi de ce que le club fournit. Hein,
bien sûr,
si vous fournit rien, si vous fournit quand même l'équipement complet, déjà, quand même pas si mal que ça. Hein. Mmh. Il y a la licence, il y a l'assurance, il y a l'équipement, il faut quand même les installations, il y a tous les éducateurs qui est autour, etc. Puis c'est quand même très bien structuré. Bon, ça me semble pas extraordinaire, entre 70 et 150 euros pour une année.
Non, d'après ce que les dirigeants viennent nous dire tous les dimanches.
Bon, le football, c'est du social, c'est clair. Mmh. On en est conscient. Bon, je pense que les clubs le savent aussi, et les gens qui peuvent pas payer, les clubs, ils ne vont pas payer. Mmh. Ils leur offrent même une paire de chaussures, des fois.
C'est encore une des activités populaires qui reste le plus abordable,
bien sûr. On a un rôle social qui est très important, c'est clair.
Allez,
ce qui n'est pas le cas d'autres comités départementaux. On ne faut pas se voiler la face.
Allez, les résultats du championnat de Ligue 1, ça va intéresser tout le monde. Et comme il n'y a pas encore France de foot, ceux qui savent, ils vont pouvoir avoir les résultats.
Oui, parce que même si on pratique en loisir, on y fallait, on est quand même intéressé par ce qui se passe à notre niveau.
Donc Valenciennes qui a battu Saint-Etienne 2-0, victoire de Sochaux, victoire importante hein, pour les Sochaliens, au Mans 2-0, Monaco a battu Lorient 1-0, victoire aussi donc de Nice à Strasbourg 1-0, hein, les Niçois qui sont 5e donc à l'issue de cette victoire, Bordeaux a écrasé Auxerre 4-1, match nul entre Lille et Metz 1-1, et puis victoire de Lyon devant Toulouse 3-2. Aujourd'hui, à 18h, il y a Paris Saint-Germain-Lens. Et puis, à 21h, il y a Rennes-Marseille. Donc, pour l'instant, Lyon a 6 points d'avance maintenant sur Nancy et Bordeaux. Hein, 42 pour Lyon et 36 pour Nancy et Bordeaux. Et 10 points sur Valenciennes et sur un trio composé de Valenciennes, Nice et Caen. Hein, vous voyez, ce sont des équipes qui jouent au football et on les pensait peut-être pas à cette position.
C'est là où on voit l'argent et les grands joueurs ne feront pas tout,
absolument,
mais la solidarité de l'équipe, c'est quelque chose d'important.
Absolument. Et donc 18e Lens, 18e Lens avec 20 points, 19e Sochaux 19 points et 20e Metz 8 points. Un petit commentaire le championnat. Vous, vous êtes pour le PSG, monsieur Content.
Moi, je suis pour le PSG, bien sûr. Ouais. Puis le PSG va s'en sortir, j'en suis persuadé. D'ailleurs, il va commencer dès cet après-midi.
Oui, quoi que Lens,
c'est un peu leur bête noire, je crois. Donc, ça ne fait rien. Je pense qu'ils vont tout faire pour remonter à la surface.
C'est le bon moment pour démarrer une série.
Bon, le PSG, c'est complexe. Je n'ai pas toutes les données pour en discuter. Donc, c'est tout.
Le championnat, donc vous le trouvez comment? Match assez moyen.
Il y a des bons matchs. On voit des bons matchs dans le championnat de France. C'est quand même un championnat de France qui est un championnat qui est assez relevé. Bon, c'est vrai, il y a Lyon qui domine. Bon, mais Lyon, il domine pas comme il a dominé les dernières années.
Ouais. Et puis ils ont fait un peu le trou.
Ils ont fait un peu le trou. Oui. Bon, on voit quand même des équipes comme Nancy. Bordeaux qui est appelé aussi quand même à jouer le haut de tableau. Après, on peut regretter que Paris Saint-Germain, que des équipes comme Paris Saint-Germain, Lens, mais vous avez des équipes quand même, Monaco, Marseille aussi, qui pourra peut-être se tenir compte, peut-être pas cette année, mais dans les années à venir.
Et c'est vrai que c'est une belle bouffée d'oxygène pour le foot. Hein. Valenciennes, Nice, Caen à égalité avec 32 points, et dans la foulée, Le Mans, 30 points.
Tout à fait, je crois que si on prenait les prévisions, les prédictions au mois de juillet dernier,
on n'aurait jamais.
Je pense que là, il y aurait.
C'est sûr.
Mm-hmm. Alors, un petit mot.
Mais c'est l'avantage du football, justement.
Ouais, absolument. Et comme on dit, il n'y a pas besoin que d'argent. Hein. Un petit mot sur l'euro.
Hein, l'euro,
on en parlait en début de cette émission. Il y a une attente énorme. Hein,
Bien sûr, un groupe difficile.
Mais
n'importe comment, si on veut arriver au bout, il faut les battre. Donc, il n'y a aucun problème. Bon, j'espère qu'on risque d'avoir un France-Italie, peut-être. Encore.
Oui. Ah, bah, c'est sûr que.
Dans la phase finale, je parle. On est au premier tour, mais au premier tour, c'est. Premier tour, pour moi, on va le passer. Donc, on aura France-Italie, va pas avancer. On peut avoir un France-Italie encore en demi-finale, je crois.
Les Italiens nous ont pas battus depuis 1970. 18, hein, même s'ils nous ont battu au pénalty, mais sinon dans le jeu, ils nous ont pas battu depuis 1978.
Absolument. Donc,
la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde en Allemagne, personne n'y croyait. Et puis bon, on est quand même.
On a fait la finale.
Moi, je l'avais dit aussi.
On peut ressortir les bandes. Hein. Bon, on s'est trompé pas beaucoup.
On va quand même jusqu'en finale, ce qui est une performance extraordinaire. Et pour le championnat d'Europe, à mon avis, on ira au moins finale et on va la gagner.
Voilà, absolument. On la verra avec une génération quand même qui est talentueuse et prometteuse. Ben Arfa, oui. Benzema, Nasri.
Ce qui nous laisse espérer pour la prochaine Coupe du Monde en Afrique du Sud, je crois.
Dominique a dit qu'on gagnerait aussi la Coupe du Monde 2010. Alors.
L'Afrique du Sud, je crois, c'est ça.
Allez, trois petites minutes. Hervé Pelletier, donc le championnat, vous le trouvez comment, vous qui suivez quand vous suivez les matchs? Hors contestation, hors ce qu'on peut voir, hein, mais comment au niveau du jeu vous le trouvez? Assez frileux, assez fermé des fois, non?
Le championnat de Ligue 1?
En tant que spectateur.
En tant que spectateur, c'est vrai que je n'ai pas toujours le temps de regarder nombre de matchs, mais. Ce qu'on disait, effectivement, c'est ce qui est intéressant quand même, c'est de voir l'ensemble de ces équipes dites petites équipes qui rivalisent avec les grosses équipes, les équipes à gros moyens, tout simplement parce qu'il y a une solidarité entre les joueurs, entre les dirigeants.
Il y a une âme en plus dans les clubs.
Et puis la grosse différence à une époque, quand on était jeune, on va pas parler comme des anciens combattants, ou quand on les joueurs, l'amour du maillot. Des joueurs, c'est vrai que là quand on voit l'amour du maillot avec deux périodes de transfert dans l'année où les gens en début décembre, alors c'est l'amour du maillot, jamais on quittera le maillot, jamais. Et puis 15 jours après vous apprenez qu'il est parti, c'est vrai que je crois que ce côté important qu'on retrouve dans la solidarité des petites équipes qui font des bons matchs et des matchs aussi où on est surpris quelquefois du résultat, ça apporte du piment justement à cette Ligue 1.
Allez, le mot de la fin avec Denis concernant ce qu'on vit en Ligue 1 et puis ce qu'on va attendre aussi de l'Euro.
Ce qui est dommage, c'est que il faut encourager Paris, il faut encourager Marseille, il faut encourager ces grands clubs parce que Lyon est quand même un peu tout seul et on le voit
au
niveau européen.
À un moment ça coince. Ouais.
Voilà. Et même s'il y a des très très bonnes équipes, c'est sûr que sur la durée ils vont avoir des soucis. Nancy, Valenciennes, tout ça, ça va avoir des. Et il faut que les gros clubs soient là en Ligue 1 pour permettre à Lyon d'aller. D'aller la gagner.
Très bien, merci messieurs. Hein, et puis le micro vous est ouvert.
Merci d'avoir invité l'UFOLEP Foot Eure-et-Loire à votre émission.
Voilà, c'est l'émission.
En sachant que l'UFOLEP existe aussi dans le département des Yvelines, même si l'activité foot n'existe pas.
Allez, puis la semaine prochaine, on aura Jean-Louis Leplat, hein, comme ami Mickaël des éducateurs. On parlera de Paul Basque avant. Et puis le temps pour nous d'aller faire quelques temps, donc une émission du côté de Fort-de-France qu'on vous diffusera dans 15 jours. Salut, bon dimanche, bonne semaine.
Bye bye. Bon voyage à vous.
Merci.